pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, ce soir, on va vous reparler des bassines, puisque cet été, il y a eu une initiative, le convoi de l'eau, une énorme tracto-vélo entre Sainte-Soline, tout au moins à côté de Sainte-Soline, et jusqu'à Paris, en passant par Orléans. Alors, on a justement quelqu'un qui a participé. Gérald, bonjour.
Salut.
Salut. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé au début ?
Un peu au début, pourquoi, et pourquoi pas à la fin. Non, oui, ça s'est bien passé. C'était très sympa. Je comprends pas la question.
Non, mais c'est qu'au début, je pense que vous étiez plus, vous auriez pu être plus nombreux que 600
ou
700.
Oui, ils ont limité, parce qu'en fait, une tracto-vélo comme ça, en fait, faut bien comprendre que il y a pas mal de choses à assumer, quoi, au niveau de la logistique.
Oui.
Il faut quand même fournir 3 repas
par jour
avec des toilettes, de l'eau. Il faut assurer aussi le parcours, quoi.
Oui. Et puis c'est long. En plus, les tracteurs et les vélos vont pas forcément à la même vitesse, quoi. Tout le monde n'est pas capable de tenir à 20 km/h ou à 25 km/h, quoi. Mais est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer quel était l'objectif et pourquoi, quelle était la motivation de cette initiative de convoi de l'eau, déjà? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et pourquoi il y a eu cette initiative, déjà?
L'initiative visait officiellement d'obtenir un moratoire sur la construction des bassines. Donc ça a été complètement loupé, quoi, puisque au moment où le directeur de l'agence de l'eau accueillait la délégation, quoi, la coque de l'eau dans les Deux-Sèvres plantait les piquets autour d'un nouveau projet de bassines.
À Prière, exactement.
Ouais. Donc la coque de l'eau a clairement dit par ce geste, et signifie clairement que
oui, le moratoire, c'est foutu, quoi.
Ouais, il cause toujours, ouais.
Et donc le moratoire n'obtiendrait rien du tout.
Alors il y avait aussi l'envie, il me semble, d'apporter une réponse à la fois à l'initiative. À la tentative de dissolution des soulèvements de la terre, et puis de poursuivre la dynamique qui s'était créée à Sainte-Soline lors des deux précédents rassemblements, voire même, on pourrait dire, d'apporter un contre-récit à ce qui s'était passé à Sainte-Soline pour pouvoir reprendre la main politiquement, d'une part, et puis aussi reprendre des forces par rapport à la répression qu'il y avait pu avoir à Sainte-Soline.
Alors tout à fait. Bon, derrière le motif officiel du moratoire, en fait, il y avait ça. Il y avait répondre à aux accusations d'éco-terroristes de Darmanin. Il y avait aussi ouvrir une perspective, répondre à la menace de dissolution. Il y avait d'autres enjeux aussi, c'est prendre une initiative qui soit moins offensive quoi aussi, hein, et qui permette aussi de sortir du localisme autour de Sainte-Soline. Et donc il y avait cet enjeu-là, quoi, qui était sous-jacent à cette rencontre vélo, quoi. Il faut bien se rendre compte aussi que bon, tous les soirs, c'était une nouvelle équipe locale qui était constituée de collectifs locaux, quoi, qui accueillait et qui se mobilisait pour monter des barnums, mettre en place des toilettes, avoir de l'eau pour 600 personnes. Hein, et ça, je pense que c'était aussi une dynamique qui était visée pour mettre en mouvement les gens, quoi, localement sur d'autres lieux que les Deux-Sèvres, quoi. Et ça a marché, quoi.
Ouais, à chaque étape, il y a eu une réponse, on va dire, à la hauteur, enfin à la hauteur. En tous les cas, ça a fonctionné à chaque étape.
Oui, oui, oui. Et bon, et ça c'est quand même. Bon, moi je pense qu'actuellement, dans l'Hexagone, il n'y a aucun parti politique ou aucun syndicat qui est capable en 3 mois de monter une réponse comme ça, avec une mobilisation, avec quand même des centaines de gens, quoi. Hein.
Oui, c'est ça. Tu parles de 600 personnes, d'une manière générale, qui ont participé à cet événement.
Ouais, l'inscription, c'était 700, mais en fait, les gens qui ont participé, c'est 600.
D'accord. C'est quand même extrêmement important, oui, parce que ça a duré quoi, une semaine, 5 jours, 10 jours?
Ça a duré 10 jours, de 18 au 27.
D'accord. D'accord.
Alors, et donc, et en plus de ça, bon, à la fin, ça a un peu changé parce qu'en fait, il y a différentes sensibilités à l'intérieur des gens qui organisent. Et il y avait des gens qui voulaient un truc un peu plus percutant, quoi. Et on savait que, en fait, l'agence de l'eau, le directeur et la préfète recevraient les délégués, quoi, de la tracto-vélo le vendredi. Mais en fait, on savait que dès jeudi soir, tous les salariés de l'agence de l'eau seraient invités à rester chez eux tout le week-end. Quoi. Donc, ils vidaient en fait l'agence de l'eau des gens, quoi, qui y travaillaient, quoi.
D'accord.
Pour éviter éventuellement des contacts, etc., quoi. Donc, c'est pour ça que le jeudi soir, quand la tracto-vélo est passée à Orléans, bon, ben, en fait, elle a bifurqué au lieu d'aller à bout, à 20 km au sud-est de l'Orléans. Elle est allée à Orléans-la-Source, au siège de l'agence de l'eau, quoi, à côté du siège du BRGM. Et les gens qui connaissent un peu Orléans, c'est Orléans-la-Source, c'est une ville nouvelle qui a été construite dans les années 60-70, à 10 km au sud d'Orléans, avec un campus, un CHU, un gros centre de chèques postaux, et aussi notamment des sièges d'agences comme le siège du BRGM, je crois que c'est le siège national, et donc l'agence de l'eau qui en dépend un peu.
Justement, peut-être qu'on peut profiter de ce convoi de l'eau pour expliciter, rentrer dans le détail de la gestion de la ressource aquifère en France. Ça y est, j'ai réussi à placer aquifère, je suis très content. Non, mais plus sérieusement, la flotte est gérée de manière administrative et c'est une prérogative de l'État. Est-ce que tu peux essayer de nous décrire, sans forcément rentrer dans les détails, mais comment justement cette gestion se passe concrètement à l'intérieur des départements et nationalement ?
Eh bien non.
Très bien. Bon, moi je peux tenter de le faire.
Non. Le problème, c'est que bon, on peut officiellement dire voilà, il y a l'agence de l'eau qui gère telle région. Bon, alors là, c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc la Bretagne et puis le bassin versant de la Loire, quoi. Et c'est une grosse partie de l'ouest français, quoi.
C'est ça. Il y a six grands bassins en France depuis 1964, date de la création.
C'est sur le papier, ça.
Ouais.
Mais en réalité, bon, il y a des lobbies qui interviennent.
Bien sûr, alors oui, on va en parler. Puisque normalement, ces trucs-là, il y a l'agence en question qui donne du fric à ceux qui ont des projets et qui récolte le fric surtout des gens comme nous quoi qui consommons l'eau et entre autres. Et puis il y a le fait aussi qu'il y a un parlement qui décide un petit peu de projets pendant 6 ans. Et ce parlement est composé de trois grands trucs, un tiers de l'État, un tiers des élus locaux et un tiers de ceux qui utilisent les agences, en particulier, bien évidemment, les agriculteurs. On s'aperçoit tout de suite que les agriculteurs sont dans ce tiers-là. Ils sont aussi dans le tiers des élus locaux, puisque la plupart du temps, ceux qui sont maires dans les campagnes, c'est souvent des paysans. Et c'est souvent des paysans de la FNSEA. Donc voilà, alors donc, on s'aperçoit que la FNSEA est bien représentée, c'est bon qu'on puisse dire, dans ces agences. En plus, ces agences, ce parlement a un président. Et le président, c'est le préfet. C'est le préfet du coin, préfet de région. Voilà, donc en fait, c'est l'État qui a la mainmise depuis Sarkozy. Hein. Avant, ce n'était pas ça. Mais maintenant, c'est l'État qui a la mainmise sur la politique de l'eau en France.
Oui. Donc, en fait, là, c'était la préfète du Loiret qui est patronne de l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
C'est ça. C'est toujours comme
ça. Complètement verrouillé et centralisé.
Complètement verrouillé.
Quels sont les intérêts de la population des Deux-Sèvres et de Charente, Charente-Maritime, quoi, par rapport à un préfet qui siège à Orléans, quoi.
Bah, tu parles, évidemment. Alors en plus, c'est là que se décide quelle bassine on va construire, entre autres.
Hein, ouais.
C'est là.
Bon, là quand la délégation a appris que la COP de l'eau dans les Deux-Sèvres avait planté la clôture pour la future bassine, justement, le même jour où il y a une délégation avec une demande de moratoire... la délégation a décidé d'occuper les locaux de l'agence de l'eau. Quoi. Donc c'est pour ça qu'ils sont restés dedans toute une journée.
D'accord.
Et de nuit, quoi. Okay. Et ils sont sortis le samedi matin à 8h. Quoi.
Ouais.
Mais bon, c'était plutôt symbolique, quoi.
Oui, c'est ça, oui. De toute façon...
Bon, on était dehors, on campait sur l'avenue. Il y a eu je sais pas combien de... Bah, de toute façon, c'est simple, hein, pour 500 ou 600 personnes qui campent, ça c'est un paquet de tentes sur 1,5 km, peut-être, avec des barnums, avec des cantines, tout ça, quoi. Mais en même temps, on était dans un quartier périphérique d'Orléans-la-Source, où le week-end, c'est absolument mort.
Quoi.
Oui. Parce que c'est que des gros sièges, c'est des sièges d'entreprise, ou alors d'administration, ou de... Bon, c'est très symbolique, quoi.
D'accord.
Alors, il y avait des gens qui voulaient autre chose. Hein. Il y avait des gens qui souhaitaient passer à
un autre type
d'activité. Mais c'est comme dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la composition. Ça s'appelle les compromis, en fait, dans le temps. Mais la compromission. Mais ça n'a pas débouché sur autre chose. Puis les gens n'étaient pas partants. Donc pour X raisons, quoi. Donc il y a eu juste cette occupation symbolique, quoi. Et puis le problème c'est qu'il reste entier, quoi. De toute façon, on sait très bien que la question des bassines, c'est tout le modèle agricole
qui est
derrière, quoi. Donc il va falloir un rapport de force vraiment remarquable.
De toute façon, quand le mot moratoire, moi ça faisait penser au débat qu'il y avait eu dans les années 70 concernant les centrales nucléaires. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'on nous bassinait avec ce moratoire et qu'on refusait, nous, en tant qu'anti-nucléaire, en disant « Non, c'est complètement citoyenniste. De toute façon, quand on propose un moratoire, l'État en fait ce qu'il veut, puisque c'est à lui que ça s'adresse. » Et qu'en plus, sans rapport de force, tu as perdu d'avance, hein, c'est évident.
Voilà, s'il n'y a pas de rapport de force, de toute façon, c'est évident qu'on nous balade et il y a des bonnes paroles, ça ne coûte pas cher, et en fait, il n'y a rien qui bouge.
Ouais.
Alors, moi, je pour comment dire, contrebalancer ce que vous dites, c'est pas le fond de ma pensée, mais bon, je vais quand même le dire. Il y a tout de même un intérêt à avoir cette revendication de moratoire, c'est que, un, elle permet de se raccrocher à quelque chose de concret, en tous les cas d'amener une proposition, et deux, peut-être que devant l'urgence et devant le plan qui est aujourd'hui en cours, à savoir les 16 projets de méga-bassines qui ont été retenus et validés, peut-être que c'est quelque chose aussi qui pourrait permettre de gagner du temps. Mais en fait, l'exemple que tu as donné dans la discussion contredit tout à fait ce que je viens de dire. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y a des discussions qui sont engagées, ben, les projets, eux, ils continuent et ils sont lancés, quoi.
Oui, ben, de toute façon, ça va dépendre aussi de l'inquiétude des gens par rapport à l'approvisionnement en eau, hein, qui va concerner tout le monde. Donc du coup, bon, ben, si les gens acceptent d'être rationnés pour pouvoir arroser les champs irrigués, bon, ben...
Oui, c'est ça, ouais, 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 il est là.
Je pense que ça va un peu coincer quand même, parce que, bon, connaissant... Enfin bon, on peut espérer quand même que les populations hexagonales vont réagir.
Ouais. Quel était le contenu des discussions, puisque tous les soirs il y avait des débats, des exposés, je suppose des discussions. De quoi ça parlait globalement ?
Bah, globalement, ça parlait du modèle agricole. Hein. Mm-hmm. Bien sûr, il y avait la conf, notamment le soir, dans le Poitou, où il y a eu une halte qui a été organisée à côté de la ferme des 1300 tourillons. Hein. Mm-hmm. C'était la question du gigantisme des fermes actuelles, et puis la question aussi d'une agriculture, d'un modèle agricole paysan, quoi, avec une production plus maîtrisée et moins féodée au lobby agricole. Quoi. Donc ça, c'est un exemple. Sinon, il y avait aussi d'autres exemples sur la protection de l'ensemble du vivant, quoi. Et avec d'autres thèmes, bon, classiques. Bon, il faut dire que quand même, quand t'as pédalé toute la journée, et que tu ne t'es pas accroché au tracteur pour être tiré, le soir, t'as envie de...
t'as envie de dormir, ça.
Il faisait 30-35 degrés, quoi. Et puis il y a des jours où vraiment c'était un calvaire, même si on ne roulait pas très vite, quoi. 60 km dans... sous le soleil de plomb, c'était quand même très dur.
D'accord.
C'est un peu difficile de se concentrer pour...
T'as plutôt tendance à choisir l'atelier relaxation que l'atelier discussion, quoi.
Tout à fait. De toute façon, ça va venir. Hein. On va toutes ces thématiques, bon, ça fait longtemps. Bon, moi, je participe à la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, toutes les problématiques de petites fermes, de production respectueuse de l'environnement, ça c'est quand même des thèmes très, très régulièrement abordés, quoi.
Alors pour nous urbains, et pour certains d'entre nous qui habitons même dans des gros, on va dire, centres métropolitains, voire ce qu'on appelle des quartiers, c'est des questions qui peuvent nous apparaître comme étant très, très éloignées, en fait. Malheureusement, on a l'impression que c'est plus des questions qui concernent soit des ruraux. Alors, le fait, oui, puisqu'ils sont les premiers confrontés à ce que tu as dit, au diktat de l'agro-industrie. Mais comment, dans les villes comme Orléans ou Paris, ça a pu être reçu, ou est-ce qu'il y a eu quand même une présence plus importante ou plus réelle, justement, de ces urbains ?
Ben, moi, j'ai trouvé que c'était à Tours et à Orléans où il y a eu le meilleur accueil, quoi.
D'accord.
Donc ça a été, je pense que c'est pas un hasard. Hein. Bon, alors à Tours, en deux ans, on a été accueillis, la politique politicienne aidant, on a été accueillis par le maire de Tours, qui est Europe Écologie Les Verts, qui avait mis une belle petite chemisette blanche et qui nous a accueillis. Et donc là, on a eu les flics de la municipale à notre service. On s'est tous baignés dans le... Il y a une grande... un grand plan d'eau au centre-ville. Les gens qui connaissent Tours... verront de quoi je parle, là. Il y avait une sorte de jet d'eau, là, et donc il y a eu plusieurs centaines de personnes qui sont baignées tous là. Non, il fait très, très chaud. Et donc, avec le, sous l'œil bienveillant de la police municipale. Donc ça, c'était assez rigolo. Et après, il y a eu une prise de parole, alors là, plus politique. Tout le monde a pu donner sa version de ce qu'il fallait faire dans les prochains mois, quoi. Notamment, je pense que, il y a quand même pas mal de gens qui pensent aux européennes.
Surtout eux, ouais.
8 mois. Donc, forcément, les gens commencent à se positionner, et puis voilà, quoi.
D'accord. Et maintenant, parle-nous un peu de Paris. Quand vous êtes arrivé, je crois que vous êtes retrouvé...
Je ne suis pas allé à Paris.
Tu n'as pas été à Paris, d'accord.
Non, parce que, en fait, moi, je faisais partie d'un collectif paysan de Loire-Atlantique qui avait amené 10 tracteurs. Et donc, on était assez autonomes.
Ouais.
C'est des gens qui étaient qui organisaient les tracteurs vigilants, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, qui avaient protégé un lieu qui s'appelait la Châtaigne en 2012.
Ouais.
Et donc, en fait, c'est ce même milieu-là qui avait organisé ça. Donc, on était assez autonome au niveau de la bouffe, au niveau des lieux de camping, tout ça, quoi. De façon à justement pas dépendre de l'infrastructure.
D'accord.
Et il y a eu des petits frottements parce qu'en fait, les copains-là, parce que moi je suis pas paysan, mais les copains paysans, là, en fait, ils sont tellement autonomes que je crois que la Confédération paysanne ne voulait pas les voir débarquer à Paris. Surtout que la conf n'était pas capable d'aligner un tracteur. Donc en fait, ça aurait été que des tracteurs de Notre-Dame-des-Landes qui seraient baladés dans Paris. Alors bon.
Oui.
Ça gênait un peu la conf. Elle se méfiait. Donc, oui. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à Orléans.
Une fois que vous alliez sur les Champs-Élysées.
Ça aurait été classe, oui.
Ouais, parce qu'il y a quand même un sacré attelage dans ces organisateurs. Ça va du collectif paysan, on va dire, de base, comme celui que tu viens d'écrire, à France Nature Environnement, en passant par la conf, etc., etc. C'est quand même un assemblage qui est de l'extérieur, assez hétéroclite, quoi. Comment ça fonctionne concrètement ?
Alors, de toute façon, la Cordeau, c'est l'espace d'organisation du Convoi de l'eau. C'est organisé avec l'appui de plus de 130 collectifs, syndicats, associations, partis... Donc, c'est un peu la telle en espagnol, quoi. L'auberge espagnole. Mais bon, après, dedans, il y a quand même des éléments qui sont plus porteurs que d'autres, quoi. Notamment, bien sûr, les soulèvements de la terre.
Ouais.
Et alors, des fois, ça grince. Des fois, ça coince. Globalement, ça s'explique. Et donc, ils arrivent à faire des choses, quand même, ensemble.
D'accord.
En étant très différents.
Ok. Écoute, on va peut-être faire une pause musicale.
Ouais, et on va peut-être après rentrer un petit peu plus dans la description et l'analyse, même si on l'a déjà fait au cours de plusieurs émissions, de cette question de la ressource de l'eau qui, malheureusement, est assez peu évoquée en profondeur. Donc on reprend notre respiration et on y va. Je t'ai mis un petit truc exprès pour toi, Gérald.
Voilà. Ah, c'est gentil.
Canada, you
Alors voilà, ouais, Creedence Clearwater Revival. Bah oui, quand même. Donc, dans la deuxième partie, on va peut-être réexpliciter un peu comment ça fonctionne l'eau dans ce charmant pays, et puis parler aussi des questions qui sont d'actualité, qui sont prégnantes par rapport à la gestion de cette ressource. Donc, normalement, la gestion de l'eau, elle a été construite dans les années 60 de manière, on va dire, décentralisée, autour, on l'expliquait tout à l'heure, d'agences de l'eau, qui sont organisées d'un point de vue de l'aménagement du territoire et d'un point de vue géographique, autour de... sites et de secteurs géohydrographiques, donc qu'on appelle des bassins, donc qui sont des formes géologiques et géographiques qui recueillent pour le coup l'eau, en tous les cas qui organisent la circulation de l'eau à l'intérieur du pays. À l'intérieur de ces agences, il y a, Denis, tu l'as très bien expliqué, cette question de parlement. Et il y a aussi ce qu'on appelle donc des comités de bassin, donc qui sont les instances qui à la fois perçoivent les taxes, donc la redevance, hein, puisque normalement les agences de l'eau sont autofinancées par une redevance qu'elles prélèvent à la fois pour tous les types d'utilisateurs, c'est-à-dire les particuliers, mais aussi les professionnels, hein, comme les industries, mais aussi les agriculteurs. Et tout ça a été plus ou moins transformé, de nouveau centralisé, par la loi de 2006, donc sous Sarkozy, qui a commencé notamment à essayer de mettre la main sur la manne financière, d'une part, puisque cette taxe, elle échappe au ministère des Finances et à Bercy. Et ça, dans la centralisation des États français, ben, on n'aime pas trop, hein, qu'il y ait du fric qui circule où l'État ne peut pas mettre son pif et, entre guillemets, y prélever sa dîme. Et puis, d'autre part, de faire peser le poids de l'État avec, tu l'as décrit, le phénomène lobby, donc en l'occurrence l'agro-industrie représentée par la FNSEA, et l'État avec la question des préfets qui permettent de verrouiller les questions de l'eau. Donc on le voit, la gestion et l'organisation d'une ressource collective, entre guillemets, qui devrait être soumise quelque part à des intérêts généraux, sont captées, pour le coup, sont privatisées ou en tous les cas priorisées à des individus qui en ont des besoins à la fois professionnels, mais aussi donc des intérêts, on va dire, financiers pour faire vite en tous les cas économiques. Est-ce que tu es d'accord avec cette présentation déjà ?
Tout à fait.
Oui. Alors, le problème, c'est que aujourd'hui, à force de pomper, notamment pour l'agro-industrie, et avec le phénomène conjoint dérèglement climatique, il y a d'une part le cycle de l'eau qui est perturbé. Alors, pour ceux qui se rappellent pas leur cours de géo en primaire, hein, le cycle de l'eau, hein, c'est en plusieurs étapes. Donc, ça s'évapore, ça monte dans le ciel, ça retombe, ça recoule et ça se réévapore. Voilà. Hein, c'est à peu près globalement, quelle horreur, la description. Comment ?
Il y a quand même les nappes phréatiques entre...
Oui, c'est vrai.
Il y a les rivières, les étangs, il y a la végétation.
C'est ça. Mais alors, d'un côté, il y a l'exploitation des nappes phréatiques qui a été extrêmement accrue par l'intermédiaire de l'agro-industrie. Le phénomène le plus important, le plus spectaculaire qu'on a décrit, c'est évidemment les méga-bassines. Mais d'une manière générale, les nappes phréatiques sont pompées pour des cultures de type maïs, oléagineux, soja, tournesol, etc., etc., qui sont pas forcément des trucs qui servent à faire de la bouffe tout de suite, mais à nourrir du bétail ou même à faire de l'agro-industrie comme des biocarburants ou à envoyer dans d'autres contrées. Donc il y a une impossibilité de reconstitution de nos nappes phréatiques. D'autre part, il y a le dérèglement climatique qui a accentué et accéléré l'évaporation. Et parfois, comme ça a été le cas au cours de l'année dernière, mais on n'en a pas trop vu cette année, mais donner lieu à des épisodes de précipitations massives, type épisode Cévenol ou ce qu'on a pu voir dans la vallée de la Roya, qui font que l'ensemble...
Épisode tropical.
C'est ça. L'ensemble des précipitations sont relâchées d'un seul coup, de manière très violente, et elles ne permettent pas de reconstituer ce cycle de l'eau. Si on ajoute à cela, encore une fois, l'artificialisation des sols, qui fait que justement tout ça, ça s'écoule et ça ne pénètre plus dans le sol, et donc ça permet de reconstituer ce cycle naturel de l'eau, ben, on en arrive à des perturbations très importantes qui fait que... Alors, cette année, on n'a pas vu ça de manière aussi spectaculaire qu'on avait pu le voir en 2022, mais des problèmes... d'adduction, pour le coup, enfin, des problèmes d'apport de l'eau dans des endroits qui sont de moins en moins reculés, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour illustrer ce dérèglement, en tous les cas, ce problème de la ressource eau?
On peut évoquer ce qui s'est passé dans le Tarn, à Sivens.
C'est-à-dire?
La façon dont un lobby peut faire pression et être complètement hors la loi et affirmer qu'il va construire, malgré l'interdiction préfectorale, de nouvelles retenues. C'est un exemple qui illustre un peu c'est d'un seul coup, on s'aperçoit que l'administration française est incapable de faire respecter la loi, quoi, par rapport à un lobby très, très déterminé, quoi.
Enfin, ce qu'on se rend compte, c'est que à l'intérieur des enjeux qui sont inhérents à la gestion de la ressource, puisque l'eau, c'est quelque chose pour nous urbains qui apparaît comme étant magique, de moins en moins peu cher malheureusement, mais en tous les cas, on voit pas le lien qu'il peut y avoir entre la nature. Et la disposition, la mise à disposition de cette ressource, puisqu'on ouvre un robinet. Mais derrière, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants et il y a des acteurs qui, eux, sont parfaitement conscients de ces enjeux et, on va dire, se sont mis en route pour être, on va dire, les principaux bénéficiaires et ont commencé à poser leurs pions dans ce qu'on sait être une potentielle crise qui est déjà là, mais qui va s'accentuer au cours des prochaines années, quoi. Donc il y a déjà des gens qui sont en train de jouer leurs cartes, tu l'as dit, c'est les retenues, etc., etc., quoi.
Oui, il y a aussi l'exemple des vendeurs d'eau minérale qui ont privatisé des nappes phréatiques dans lesquelles les populations locales se servaient, quoi. Et ces vendeurs d'eau minérale qui tirent tellement pour vendre la flotte à travers le monde, mettre à sec certaines ressources, quoi. Ça, c'est aussi cet exemple-là qui illustre aussi le caractère aigu de la crise dans laquelle on est en train de rentrer, quoi.
C'est le cas, par exemple, de Vittel, Perrier également, qui pompe la nappe phréatique, pour le coup, à Vittel et qui assèche tout ce qu'il y a autour. À noter d'ailleurs qu'un des principaux vendeurs d'eau minérale, Nestlé, par l'intermédiaire de son patron suisse, alémanique, était présent à la commission Attali et a d'excellents rapports avec Emmanuel Macron, puisqu'ils ont été en affaires il y a quelques années pour le rachat de Danone notamment. Mais bon, ça c'est une autre histoire, mais on voit quand même qu'il y a des intérêts qui se recroisent et des acteurs qui réapparaissent, quoi.
Ouais. Il y a aussi un phénomène qui est en train de se passer là. C'est avant on ne cherchait pas, alors on ne trouvait pas, mais maintenant on cherche et on trouve. C'est les molécules de produits phytosanitaires qui ont percolé à travers la terre, quoi, à force d'être arrosées sur les champs, quoi, qui arrivent dans les nappes phréatiques et qui maintenant sont dans l'eau du robinet, quoi, dans plusieurs villes en France. Moi, je sais qu'à Nantes, par exemple, il y a deux molécules qui sont, bon, à forte probabilité cancérogènes, et qui, normalement, ne devraient plus être là, quoi, parce que les produits phytosanitaires ont été retirés de l'avant, et qui apparaissent maintenant dans la flotte du robinet, quoi.
C'est ça.
Il y a ce phénomène-là, quoi.
Donc non seulement l'eau devient rare, mais en plus elle est dégueulasse, quoi, celle qui reste. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est que c'était des enjeux qui avaient été, on va dire, en tous les cas, identifiés, voire anticipés, puisque ça fait des années et des années que le PNUD, donc le programme des Nations Unies pour le développement, pointe. Ces problématiques qui sont là. Et encore, dans notre partie du monde, je le répète, on a juste à ouvrir un robinet, mais il faut bien se rappeler qu'une personne sur deux dans le monde ne dispose que de 15 litres d'eau par jour, et une personne sur trois doit effectuer plus de 15 kilomètres pour pouvoir accéder à un point d'eau potable, quoi. Ouais. Et 15 litres d'eau, c'est pour manger, boire, se laver et aller aux chiottes. 15 litres d'eau, c'est une chasse d'eau. On estime par exemple qu'un Américain consomme à lui seul entre 450 et 650 litres d'eau, selon qu'il ait des utilisations uniquement primaires, savoir se laver, boire, manger, ou qu'il ait des utilisations secondaires, utiliser des objets ou des biens de consommation qui ont nécessité de l'eau pour leur fabrication ou pour leur utilisation, quoi. Donc l'écart est vraiment totalement sidéral, quoi.
Ouais. Bah, de toute façon, les États-Unis, ils ont quand même réussi à quasiment mettre à sec le Rio Colorado. Et maintenant, ils vont carrément pomper de la flotte au Canada, parce qu'ils ont tellement, ils utilisent tellement de flotte que même leur pays se retrouve en stress hydrique.
C'est ça.
C'est ça. Donc, si vous êtes américain, de toute façon, c'est carrément une impasse. Hein.
Et alors donc, en fait, on se retrouve face à une alternative, c'est-à-dire soit poser le problème politique de l'eau, de la ressource, et en fait, ce qu'on nous oppose en face, avec les flics et les lobbies, c'est de dire « non, pas du tout, on va gérer la pénurie, quoi ».
Oui, ben oui, parce que ça va être très rentable.
Oui.
Ça va être très rentable. Ça va. Bon, déjà les lobbies les plus puissants, ils vont être satisfaits, et puis et les autres, ils vont avoir une taxe.
Et c'est ce que tu nous expliquais la fois dernière, c'était justement ça. C'est ce mouvement, il est en train de transformer une ressource somme toute naturelle, qui est pas gratuite, mais qui pourrait s'en rapprocher. En une source de revenus, quoi, de entre guillemets capitaliser une fois de plus un morceau de la nature, quoi.
Tout à fait. En premier, ça permet de rentabiliser un aspect de la vie qui était avant disponible à volonté et à profusion.
D'accord. Et est-ce que cette question-là d'enjeu de lien avec la dynamique, en tous les cas, ce qu'il en reste de la dynamique du capital dans cette période de crise, elle est perçue par les participants du convoi de l'eau et d'une manière générale dans les discussions qu'il y a, ou est-ce qu'on reste pas, on tend pas vers un écologisme un peu babos, quoi, un peu niais?
Ah bah bon, de toute façon, les règles de la politique politicienne s'appliquent aussi. Les élus qui viennent éventuellement à Sainte-Soline, des fois, enfin qui sont venus d'ailleurs pour certaines manifs, ils sont venus par rapport à l'enjeu de voix, quoi, à capter, quoi. Après, je pense que tous les participants pour qu'on voit de l'eau. Ils ont compris, grosso modo, c'est combien ce qui est en train de se passer par rapport à la flotte, quoi. J'ai été surpris par l'accueil des gens qui nous voyaient passer et qui nous applaudissaient. Il y a eu vraiment, je dirais, à 85% des gens qui applaudissaient, quoi. Et qui nous encourageaient à passer, et des gens qui sortaient de leur maison, parce qu'ils ont été la parade du 14 juillet, et qui étaient vraiment très enthousiastes, hein. C'était très gentil, hein. Notamment dans les Deux-Sèvres dans la Vienne, le département de Poitiers, bon, parce que forcément, les informations ont été plus diffusées, et puis il y a eu plus de travail de communication, quoi. Et puis aussi parce qu'il y a plus le résultat des effets des bassines qui existent en Vendée et en Charente maritime. Bon, maintenant les gens ils le voient, quoi. Les rivières asséchées, etc., quoi. Ouais. Mais sinon il y a un très bon accueil.
De toute façon, je crois qu'il y a un tel niveau de défiance par rapport à Macron et ses sbires, que n'importe quel mouvement social ou n'importe quel mouvement qui se présenterait de manière sympathique, hein, comme tu l'as décrit, parce que bon, des vélos et des tracteurs, on peut pas forcément prendre ça comme quelque chose de flippant et bien reçu, hein. Je pense que si avec un peu d'organisation et avec un discours à peu près cohérent, tout est recevable, puisque les gens le voient bien que ce modèle n'est plus tenable, quoi, et que en plus ça devient de plus en plus difficile. La captation de l'eau par des acteurs privés, notamment en ville, fait que ça a vachement augmenté, quoi. C'est vraiment des acteurs comme Veolia, la fin des régies municipales dans les petites villes, etc., montre que le coût de la flotte dans les tuyaux, il est en constante augmentation depuis une dizaine d'années, quoi. Donc, ouais. c'est pas étonnant. Mais je reviens à mon obsession, à cette dynamique anticapitaliste, parce que justement, à mon avis, on peut pas aller jusqu'au bout de la question de l'eau si on l'intègre pas. Est-ce que dans les tables de presse, dans les interventions, dans les points de vue qui étaient défendus, elle était présente, ou et si elle était présente, est-ce qu'elle était minoritaire par le fait de groupes spécifiques, ou est-ce que c'était quelque chose qui est présent dans la revendication?
Bon, non, ça se venir.
Bon, t'as pas fait ton boulot.
C'est un mouvement quand même multiforme, bon, avec des gens qui ne sont pas spécialistes, qui sont juste pour une autre gestion du système. Bon, alors la Confédération paysanne, ça dépend des départements, mais bon, par exemple, la Conf en Loire-Atlantique, elle est très liée au PS, quoi. Mm-hmm. Par contre, dans d'autres départements, elle est plus radicale, donc notamment dans les Deux-Sèvres. Parce qu'il faut bien voir que le 8 septembre, c'est-à-dire vendredi, là, il y a un procès à Niort, ouais, avec justement des secrétaires de la Conf 79, 86, avec trois personnes qui sont censées appartenir au soulèvement de la Terre, avec d'autres, comment dire, il y a aussi un secrétaire de la CGT. Parce qu'il faut voir que Binet, qui est la secrétaire générale de la CGT, l'a appelé à faire grève et à venir manifester au procès. Donc, le 8 septembre, là, ça va être justement le... Ouais, on va voir un petit peu des positions qui vont s'affirmer plus, quoi, parce que, bon...
Ouais, c'est le procès de ceux qui ont soi-disant organisé la manif de Sainte-Soline du 25 mars, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et donc là, ça va être un enjeu, parce que ça va être, c'est plus la tracto-vélo. La tracto-vélo, c'est quand même très agréable à faire. Même si on en a chié pour pédaler dans la chaleur. Surtout pour ceux qui n'étaient pas entraînés comme moi. Mais sinon, là, le 8 septembre, ça va être quand même... je pense que les positions vont être plus affirmées.
Politiquement, ouais, c'est
bizarre. Après, c'est fragile, parce que, bon, il y a une telle pression médiatique que, bon... au moindre faux pas, il y a toujours des journalistes qui sont qui sont bien intentionnés pour tordre le bâton dans un sens. Je sais pas si vous connaissez le site qui s'appelle Blast.
Ouais, et je connais, ouais.
Il y a comment dire, un journaliste, Grabo, je crois qu'il s'appelle. Enfin, en tout cas, il vient des Échos. Il est passé par le Point. Et il a fait dire à un des porte-parole des soulèvements de la Terre que, comment dire, la violence était nécessaire et que un fonctionnement centralisé était, comment dire, souhaitable. Ce à quoi le camarade des soulèvements de la Terre a réfuté en disant que c'était un détournement complet de sa parole. Et le site Blast a dit, bah, donnez-nous les, comment dire, l'enregistrement de vos paroles et on verra. Et en fait, ils ont réussi à récupérer l'interview. Et Blast, normalement, devait faire un déni par rapport à ce journaliste-là, justement, qui a essayé de balancer une affirmation qui était complètement dévoyée par rapport aux déclarations faites.
Bien sûr. Et alors, que ça donne ?
Comment ?
Qu'est-ce que
ça donne ? Il faut aller sur le site Blast et voir s'il y a
réponse. D'accord. Après, il y a toute une hype autour des soulèvements de la Terre, puisque d'un côté, c'est quand même une initiative qui est une dynamique, quoi. Et puis, cette question de l'eau qui est un mouvement en pleine ascension. Donc, peut-être que, justement, il y aura à certains moments un moyen de distinguer des tendances et des agrégats autour de dynamique politique ou de thématique politique avec, espérons-le, une dynamique majoritaire pour l'anticapitalisme. Bien à fond. Hein. Mais d'autre part, il y a eu aussi de la part de l'État de la volonté de couper tout de suite la dynamique en diabolisant, en tentant ce mouvement de dissolution qui, pour le moment, est un échec, quand même. Très drôle de voir ça. Et puis, voilà, il y a une reprise médiatique assez importante de la part. Il y a eu une focale qui a été. Un coup de projecteur qui a été posé dessus avec, malheureusement, une concentration sur la question de la violence et pas vraiment une question de pédagogie sur la question de la ressource, quoi. Et c'est quelque part un reproche, un petit reproche que je pourrais adresser au soulèvement de la Terre ou en tous les cas à cette mouvance, c'est que en employant des images qui sont certes, ou des expressions qui sont certes fortes et parlantes, comme celle de guerre de l'eau, de peuple de l'eau, etc., etc., j'ai l'impression que y a un manque de pédagogie et il y a un manque de politisation de ces moyens. Est-ce que c'est moi qui ai une perception, une vision tronquée des discours ou est-ce que tu partages mon opinion?
Oui, malheureusement, je partage mon opinion.
On devrait faire des trucs ensemble.
Non, le problème, c'est que, effectivement, ils sont plutôt dans l'activisme un peu déguisé, avec des termes comme composition ou. D'ailleurs, ils revendiquent être une coordination de collectifs, mais aussi un réseau d'amis.
Ah.
Donc, c'est clair.
Ouais.
Donc, c'est une façon d'avancer, c'est une façon de fonctionner qui est forcément va à l'encontre de la clarification politique avec en termes connus et retournables.
Ouais.
Il y a une dimension non matérielle.
Ouais, d'accord. Alors que c'est on ne peut plus simple, en tous les cas facile, de pouvoir élargir cette question politique sans cependant affadir sa son
son discours et sa pratique et ses thématiques, quoi. Puisque je crois qu'on a essayé de le faire au cours de cette heure, les acteurs et les enjeux, ils sont quand même limpides.
Oui, bah d'ailleurs, ce qu'on a essayé de faire un peu, enfin, au moins tenter de participer à une clarification, en diffusant un tract
par rapport
au nucléaire, qui explique que même si apparemment les bassines et une centrale nucléaire, c'est des choses complètement opposées, autant les unes sont simples, autant l'autre peut être complexe, mais en fait, elles relèvent de la même logique, qui est d'une part de ôter la capacité des populations à choisir vraiment leur choix de développement ou leur modèle de société, quoi, et aussi qui capte l'eau, parce qu'il faut bien voir que le nucléaire, c'est quand même le plus gros utilisateur d'eau dans l'Hexagone, parce qu'il rejette en partie l'eau, mais aussi il y en a une grosse partie qui s'évapore sur certains modèles avec les tours de refroidissement, et l'eau qui est rejetée, elle est réchauffée, et en plus de ça, elle contient énormément de produits chimiques, quoi. Donc ouais. C'est aussi c'est le même rapport que les bâches au niveau de la raréfaction de la ressource en eau, quoi.
Et alors comment le tract a été reçu, justement?
Ah, bonne question. Bah, de toute façon, c'était une proposition d'analyse, hein, qui bon par rapport à deux secteurs d'activité qui en fait procèdent de la même logique. Et par rapport à l'écrit, les gens sont un peu blasés, quoi. Hein, donc ils sont tout le temps sur leur écran, donc c'est difficile de leur dire non, ça c'est intéressant. C'est comme tous les tracts. Mais néanmoins, les gens quand même, une fois qu'on expliquait un peu la thématique du tract, les gens le prenaient, quoi. Il y avait quand même là-dessus, ça c'était quand même intéressant, quoi. Les gens étaient là pour. Ils étaient ouverts à la
discussion,
au débat, ouais.
Quoi.
Ouais, je trouvais.
Mais je crois qu'il faudrait. Il faudrait reprendre depuis le début et réexpliciter comme on l'a fait. Alors, on a vraiment été très léger et on a survolé, mais de réexpliciter tout depuis le début de manière claire, cycle de l'eau, gestion de l'eau, etc., etc., quoi. Parce que des choses qui pour nous apparaissent comme faisant partie de notre logiciel politique, elles sont totalement inconnu, ignoré, enfin mésestimé par la majorité de la population, quoi. Tu vois, les agences de l'eau, par exemple, c'est des choses qui sont zappées, quoi.
Oui, mais moi je pense que ça va la génération qui a 20 ans qui arrive maintenant dans l'action, quoi, elle est quand même beaucoup plus sensibilisée, quoi. Je pense qu'il y a un changement de obligatoire, hein, il y a un changement de sensibilité. Après, je ne sais pas ce que ça va donner, si ça débouche justement sur une remise en cause des institutions et des administrations, et vraiment une prise en main des problématiques, quoi, par les populations. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est le sujet de la bagarre actuellement en cours.
Ouais. Alors, pour les auditeurs qui voudraient justement creuser la question, on peut leur signaler deux ressources qui sont pas trop reloues, quoi. D'une part, il y a eu un gros dossier dans le journal Le Monde Diplomatique, pas de ce mois-ci, mais du mois dernier, qui est très complet. Et puis d'autre part, dans le numéro 221 de Courant Alternatif.
Non, 332.
C'est 332 ou c'est 331? Bon, peu importe. Mais 332, sur le site de l'OCL, vous pouvez considérer. Il y a un gros dossier sur l'eau avec justement cette dynamique anticapitaliste, dossier qui a été réalisé en grande partie par des camarades de Bretagne, donc c'est le 331, et qui est disponible sur notre site et qui là justement essaye de poser justement des jalons, en tous les cas un cadre anticapitaliste. Bon, en tous les cas, on n'a pas beaucoup entendu parler de ce convoi de l'eau, mais tu peux le confirmer en conclusion, ça a été quand même un chouette moment et plutôt un succès quand même, malgré on va dire, l'échec de l'examen du moratoire par l'agence de l'eau d'Orléans, c'est ça?
Alors, au niveau médiatique, la presse locale et les médias locaux où passait le convoi lourd ont bien relayé. Hein. On a fait la une des quotidiens locaux, quoi. Après, effectivement, au niveau national, c'est un peu maigre. Il a manqué une petite étincelle, histoire d'attirer l'attention et de percer le
mur de l'indifférence. Hein? Le mur de l'indifférence. La prairie de l'indifférence, voilà.
Voilà, donc c'est ça qui a manqué. Mais sinon, bon, après, je crois que... on se posait la question des 150 comités du soulèvement de la Terre qui étaient apparus après l'annonce de leur dissolution à venir. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui étaient là et qui en font partie, quoi. Et donc va falloir voir dans les mois qui viennent comment ce convoi de l'eau et sa dynamique interne, tu vois, et avec comment les gens se sont mis en mouvement. Qu'est-ce que ça va donner, quoi? Parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est quand même 10 jours consacrés à, ouais. Ouais, à l'affirmation d'une problématique politique, quand même.
Ouais, faut avoir le temps. Bon, d'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Gérald. Prochain rendez-vous bien. Le 8 pour le procès à Niort. On reviendra dessus dans les Gregors, évidemment, comment ça s'est passé. Et puis, repose-toi bien et à bientôt. Peut-être pas en vélo ou en tracteur, mais à bientôt.
À bientôt.
Salut.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur l'école Yarek à Montpellier, Canassu, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.
Running, fuck the slow-mo.
Napaga! Napaga!